Vous venez de dire, par exemple, les homicides ont baissé de moitié en 40 ans. Oui, mais non.
Nouveau décryptage, comme d'habitude pour chaque intervention, 4 thèmes d'analyse précis, chiffres, explications, contre-arguments et mensonges. C'est parti.
Alain Bauer, vous êtes professeur en criminologie. On ne vit pas dans une France orange mécanique, on ne vit pas dans une France coupe-gorge. A donc dit ce matin Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, au lendemain des chiffres de la délinquance de 2025. C'est une analyse que vous partagez ?
Tout est hyperbolique dans la communication politique et moi, c'est pas mon métier, la communication politique. Moi, ce sont les faits. C'est pas l'ordre, mais ça ressemble un peu. Vous venez de dire, par exemple, les homicides ont baissé de moitié en 40 ans. Oui, mais non. Ah. Ils ont baissé en moitié en 40 ans, mais ils ont remonté de 50% en 10 ans.
Oui.
C'est le problème, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on regarde ?
On prend comme échelle de mesure.
Et vous venez de le dire très bien en disant on tord les trucs. Hein. Vous savez, la statistique est la forme la plus élaborée du mensonge, disait un collègue britannique il y a un siècle. Et c'est tout le problème. Dans la réalité, il n'y a qu'un seul outil à peu près fiable en matière de statistiques criminelles, ce sont les homicides. Parce que dans ce pays, on compte bien les cadavres depuis 1539 et la création de l'État civil. Nous avons une baisse historique de l'homicidité de 150 homicides pour 100 000 habitants à 1. Jusqu'en 2012. Le plus bas historique de notre histoire, l'année la plus tranquille de notre histoire, c'est 2012. 662 homicides. Je ne parle pas des tentatives, je vais y revenir.
Oui.
Nous sommes légèrement en dessous de 1000.
On est à 982.
C'est une mauvaise nouvelle.
On est à 982.
C'est une très mauvaise nouvelle.
Matin,
et si vous prenez les tentatives de suicide, qu'on ne comptait pas avant 1987.
On va revenir sur les tentatives de suicide.
Oui, qu'on ne comptait pas avant 87. Nous sommes homicides et tentatives d'homicide. Tentatives ne sont que des homicides ratés. Soit par l'efficacité des services de secours, grâce à leur soit rendu, soit à l'incompétence des tueurs, qu'on les remercie aussi par défaut. Nous sommes au pire chiffre homicides et tentatives, ce que j'appelle moi les homicidités, depuis 1972. Donc sur la violence pure, gratuite ou pas gratuite, ce mot veut pas dire grand chose. Mais bon, on est au pire de ce qu'on a connu en 50 ans. Donc
vous
avez une relation avec la violence pure, la violence physique où on peut mourir, directement, indirectement, à cause des narcotrafics, à cause du refus d'obtempérer, parce qu'on est une victime collatérale, mauvais moment, mauvais endroit, qu'on traverse un passage piéton avec quelqu'un qui est sous protoxyde d'azote, parce qu'il y a un règlement de compte dans le quartier et qu'une balle
prend dans votre chambre. Les pays plus dangereux d'Europe occidentale.
Non,
c'est ça le sujet.
Mais je veux vous dire par là, vous voyez, sur la manière dont on présente, malheureusement, le temps long, qui est notre travail à nous, est différent du temps court, qui est le travail des politiques. Oui. Donc nous mettons toujours tout en perspective. Nous avons une inversion de tendance qui amène à une augmentation rapide, intense et grave de l'homicidité pure, c'est-à-dire le pire du pire de l'activité criminelle.
Alors, on va faire un petit peu de sociologie. Quelles sont les personnes les plus touchées par les homicides et tentatives d'homicide en France ? Bon, déjà, pour commencer, en 2023, 4015 victimes de tentatives d'homicide ont été recensées par les forces de l'ordre contre 2259 en 2016, soit une hausse de 78% en 7 ans. Cette augmentation représente une croissance annuelle moyenne de 9% sur la période. Aussi, en 2024, le nombre d'homicides s'établit à 980 faits, après un pic de 1010 en 2023, 959 en 2022 et 881 en 2021. Tout ça, c'est pour ce qui est du volume. À présent, concernant la partie sociologique, premier enseignement majeur, le genre est un déterminant absolument central. Les hommes représentent plus des 3/4 des victimes de tentatives d'homicide, 77%, principalement dans un contexte extra-familial, 93%, et 85% des tentatives d'homicide se produisent en dehors du cadre familial. Ce chiffre s'inverse radicalement dans la sphère domestique. En France, parmi les 119 homicides liés aux violences conjugales recensés en 2023, environ 80% des victimes étaient des femmes, les plus touchées étant celles âgées entre 40 et 49 ans. Le milieu social constitue un second déterminant massif, souvent sous-estimé. Les recherches du sociologue Laurent Muccelli, du CNRS, fondées sur une étude exhaustive des dossiers criminels dans les Yvelines dans les années 90, mais dont les grandes tendances restent valides, nous éclairent. Le profil des victimes diffère peu de celui des auteurs, avec une surreprésentation marquée des jeunes adultes, de la précarité et des carences familiales. Plus précisément, près de 90% des auteurs d'homicides ayant un emploi appartiennent au milieu populaire et se situent pour beaucoup dans les plus basses tranches de salaire. Et si l'on ajoute les inactifs, cette proportion dépasse 95%. La géographie joue également un rôle crucial. L'exposition à la victimisation dépend essentiellement de la localisation. Elle est élevée à Paris et dans sa proche banlieue nord.
Ça, c'est l'élément qui nécessite une mobilisation générale, car elle concerne tout, de très jeunes tueurs à gages, de très jeunes qui tuent sans s'en rendre compte, de très jeunes qui tuent pour s'amuser, de très jeunes qui ne tirent pas les conséquences de ce qu'ils viennent de faire en tuant quelqu'un ou en le torturant. Vous avez un des cas récents dont vous avez vous-même parlé. Voilà, il faut prendre en considération ce climat général qui n'est pas un sentiment d'insécurité, mais un climat de violence.
Si vous l'acceptez, on va faire point par point. Bien Alain sûr. Bauer, on va parler tout de suite de ces chiffres, ensuite des homicides ratés et ensuite de la jeunesse. Vous comptez les chiffres autrement et vous mettez en avant que les tentatives d'homicide ont augmenté en France de 99% depuis 2016. Un chiffre volontairement plus choc. Pourquoi ? Ça dit quelque chose, cette augmentation depuis 2016 ?
Quand on veut tuer, quand on veut juste se battre, quand on est dans la révélation, par exemple les agressions sexuelles, on ne sait toujours pas si c'est la révélation parce que la parole s'est libérée, mais ça existait avant, ou si c'est une augmentation parce qu'il y en a plus. Il y en a plus, mais on ne sait pas pourquoi. On est dans l'interrogation. Et donc, on se dit, bon, il y en a plus, c'est une bonne nouvelle, et il faut que toute la parole soit révélée. Mais on ne sait pas si c'est une inflation ou une révélation. Donc, on est dans le mystère, et on pousse à ce que ça soit de plus en plus dit, notamment sur l'inceste, notamment sur toute une série de choses qui sont révélées 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, et qui avant n'étaient même pas traitées parce que prescription, et qui maintenant le sont malgré tout, juste pour dire, on s'en occupe, ça y est, on a compris que c'était un problème. Donc ça, c'est un sujet qu'on commence à intégrer. Les tentatives d'homicide, c'est je veux tuer. Mon intention est clairement de tuer. Pas de blesser, pas de voler, c'est pas une victime collatérale, je ne me rendais pas compte de ça. Non, je voulais tuer. J'assume de vouloir tuer. Et quand vous avez une telle augmentation, et que vous ajoutez ça à l'augmentation réelle du nombre d'homicides depuis 2012, vous dites, il y a un changement dans l'ensemble de la société, parce que ces meurtres, ces homicides, ces assassinats, quelle que soit la catégorie pénale retenue, sont une pulsion de mort qu'on avait oubliée depuis les années 70.
C'est quoi ce changement ? Ce changement, c'est cette pulsion de mort ? C'est quoi ce changement ?
C'est ça, la pulsion de mort. C'est je veux tuer parce que ça me soulage.
Et vous l'expliquez comment ?
Alors mes collègues psychiatres, psychologues, criminologues, sociologues, tout le monde s'y met. On essaye de trouver des idées. Alors la plupart disent c'est l'effet télé, c'est pas vrai. Les démonstrations, c'est l'effet jeu vidéo, c'est pas vrai non plus. Même s'il y a une petite différence entre l'effet télé, à la télévision vous ne maîtrisez pas ni le film ni la fin. Les gens souffrent, ils meurent, et vous pouvez juste arrêter le film. Dans le jeu vidéo, vous pouvez modifier la fin, vous pouvez modifier les critères. Donc, on a eu des débats. Est-ce que GTA, Grand Theft Auto, quand on pouvait rouler sur des gens et gagner des points, a changé la mentalité des gens ? Mes collègues sont dubitatifs.
Alors, que disent les études sur le lien entre jeux vidéo violents et comportement agressif ? Une étude menée par l'Université d'Oxford, publiée le 13 février 2019 dans la revue Royal Society Open Science, a travaillé sur un large échantillon de 2008 personnes, comprenant 50% d'adolescents britanniques âgés de 14 et 15 ans. Cette étude conclut qu'il n'y a pas de causalité entre le jeu vidéo et le comportement violent. En 2018, une expérience encore plus rigoureuse a été menée par des chercheurs de l'Institut Max Planck pour le développement humain et la clinique universitaire d'Hambourg. Simone Kuhn et son équipe ont demandé à 90 adultes de jouer tous les jours pendant au moins 30 minutes pendant 8 semaines, une partie jouant à GTA V, un jeu violent, une autre au Sims 3, un jeu où l'on construit sa maison, les restants servant de groupe témoin. Aucun des participants n'avait joué à GTA avant et les personnes avaient entre 18 et 45 ans. Après un passage au scanner IRM, les chercheurs ont révélé aucune modification du comportement, aucune hausse d'agressivité, rien du tout. Les personnes ayant joué de nombreuses heures à des jeux violents durant leur adolescence ne présentent pas plus d'agressivité que ceux qui ont manipulé des jeux plus paisibles, résultats qui corroborent ceux de l'Université d'Oxford en 2019. Enfin, les chiffres sociétaux enfoncent définitivement le clou. La violence juvénile aux États-Unis a chuté de plus de 80% depuis les années 90, selon le Bureau des statistiques de la justice, pendant que GTA V, le jeu où on incarne un braqueur de banque, dépassait 200 millions d'exemplaires vendus et Call of Duty, un jeu où on incarne un soldat américain, toutes versions confondues, atteignait plus de 400 millions de copies.
Mais c'est plein de petites choses, et notamment la rageosphère et la trollisation de réseaux qui sont aujourd'hui incontrôlés, qui poussent au passage à l'acte sans conséquence. On ne se rend pas compte de « on va tuer quelqu'un ». Et quand ils sont morts, mes collègues policiers ou magistrats ou surtout psychiatres et animateurs sociaux disent « non mais ils n'assument pas ». Ils disent « bah oui, il est mort, et alors ?»
Alain Bauer, vous dites que vous êtes attaché aux faits et aux faits.
Oui.
On va revoir le tweet de Jordan Bardella. La France est aujourd'hui le pays le plus dangereux d'Europe occidentale. Est-ce qu'il a raison, Jordan
Bardella ? Je ne sais pas. Je ne peux rien comparer à rien. Deux tiers du code pénal des autres pays sont conformes aux nôtres et un tiers ne l'est pas. Donc je ne sais pas ce qu'on compte.
Oui.
Voilà. Donc on pourrait compter.
C'est le danger de la statistique à qui on peut faire dire des choses.
C'est ce que je confirme. Donc si vous prenez les homicides, par exemple, on va arriver à avoir un niveau de comparaison de l'ensemble des homicides Alors, je ne sais pas si c'est sur les 27 pays de l'Union européenne, si c'est les 27 plus la Grande-Bretagne plus l'Écosse qui est comptée à part, parce que c'est une partie du problème aussi de quels sont les territoires qu'on compte. Est-ce qu'on prend en compte, par exemple, le flux des touristes non résidents ou pas? C'est un sujet très important pour une ville comme Paris. Aujourd'hui, à Paris, il y a eu 5,5 millions de personnes qui sont passées, mais il y a un peu moins de 2 millions de résidents. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on compte? Où est-ce qu'on déclare? Quand est-ce qu'on compare? Nous avons créé l'enquête de victimation pour savoir ce que les gens subissaient et pas seulement ce qu'ils déclaraient. Puis il y a aussi ce que la police n'enregistre pas. Ce qu'on appelait la main courante, qui est visible pour la gendarmerie nationale et qui ne l'était pas du tout pour la police nationale. Donc on a plein de biais. Du coup, l'enquête de victimation plus les statistiques administratives, et je rends hommage au service statistique, hein, celui du ministère de l'Intérieur fait un travail formidable de remise en transparence après des années de gestion artisanale, on va dire, pour rester poli. Il y a un immense travail qui fait, ce qui fait qu'on se rend compte de ce qui se passe. Et quand vous dites, par exemple, le chiffre des déclarations, qui est très importante, qu'est-ce qui nous permet de le savoir? L'enquête de victimation. 9% seulement des victimes d'agressions physiques et sexuelles intrafamiliales porte plainte. Oui. On est plus au courant d'une destruction de rétroviseurs, parce que c'est remboursé par les assurances, en partie, que par ce type de violence sexuelle et intrafamiliale. Si le chiffre passait à 90%, l'augmentation du nombre de faits serait immense. Oui. Le ministre de l'Intérieur serait mis en accusation. Oui. Alors que ce serait une bonne nouvelle, nous saurions enfin tout ce qui est caché.
Alors, quelle est la différence entre une main courante et un dépôt de plainte en France? La main courante, c'est une déclaration faite auprès de la police ou de la gendarmerie pour signaler un fait sans déposer plainte, c'est-à-dire sans demander l'ouverture d'une enquête. Elle laisse une trace officielle, utile par exemple pour documenter un début de harcèlement ou des conflits de voisinage, et l'auteur des faits n'est pas informé ni convoqué. Le dépôt de plainte, en revanche, est une procédure par laquelle une victime signale une infraction pénale à la police, à la gendarmerie ou directement au procureur de la République et entraîne automatiquement une enquête. Le parquet décide des suites, classement sans suite, médiation, convocation ou procès, pouvant aboutir à des sanctions pénales. La distinction fondamentale est donc la suivante. La main courante ne déclenche pas d'enquête alors qu'une plainte le fait. La main courante est un outil de documentation, tandis que la plainte est un acte juridique. Mais si les policiers ou les gendarmes estiment que ces faits constituent une infraction, ils peuvent en aviser le procureur de la République, lequel peut décider de poursuivre le mis en cause au regard de la gravité des faits déclarés. Par ailleurs, le procureur de la République, dans le cadre d'une procédure pénale, recherche systématiquement toutes les mains courantes déposées par la victime. Il faut également noter qu'au terme des articles 441-1 et 226-10 du Code pénal, sur le faux en écriture et la dénonciation calomnieuse, le déclarant peut faire l'objet de poursuites pénales si les informations mentionnées dans sa déclaration ne sont pas fondées.
Alain Bauer, on parlait du narcotrafic, de la lutte contre le trafic de drogue. Le procureur de Toulon veut durcir la réponse pénale envers les consommateurs et il voudrait, ou en tout cas envisage, d'informer certains employeurs si leur salarié est condamné pour usage ou possession de drogue. Regardez.
Si on a une mission de sécurité des personnes et des biens, à ce moment-là, le procureur de la République peut en informer l'employeur pour que l'employeur prenne ses dispositions afin d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Pour qu'éventuellement, ils prennent des dispositions, ça leur appartiendra, sur le que faire d'un salarié qui est consommateur de stupéfiants et auquel on confie des missions de sécurité des personnes et des biens, puisque c'est ça que dit la loi.
Informer un employeur en cas de un de ses salariés a consommé de la drogue, ça peut être utile, ça, dans la lutte contre le narcotrafic?
Ça dépend où. S'il est chauffeur de bus, pilote d'avion ou responsable d'une centrale nucléaire, c'est déjà en partie le cas. Il y a des tests qui sont en partie autorisés.
La justice préviendrait elle-même les employeurs.
Oui, mais en fait, ce sujet qui est répression ne règle toujours pas le problème du consommateur. Le consommateur n'est pas un criminel ou un délinquant, c'est un malade. C'est le code de la santé publique qui régit ça. On l'utilise très peu, d'ailleurs, y compris par l'injonction thérapeutique et pas seulement. Il serait utile que vous alliez vous soigner. Moi, je suis pour l'injonction thérapeutique réelle, mais pas pour la pénalisation du consommateur. Ça ne sert à rien, ça n'a jamais servi à rien, ça n'a jamais fonctionné. Par contre, l'information de l'employeur dans un certain nombre d'emplois critiques et dangereux, bien évidemment, c'est non seulement utile, nécessaire, mais même indispensable.
Pardon, mais c'est difficilement audible, Alain Bauer, pour certaines personnes qui nous regardent ce soir, quand le président de la République veut doubler la peine, l'amende forfaitaire pour Assassin's
Creed. Et la faire payer.
À un moment, quand on se fait attraper 4, 5, 6, 7 fois et qu'on aura payé autant, peut-être qu'on aura un petit peu moins d'argent pour faire propager ce trafic.
Écoutez, au vu des prix du trafic, de la rapidité d'extension et d'implantation notamment de la cocaïne, tout ça sont des paroles en l'air.
Alors, quels sont les chiffres des saisies de drogue en France et que représente économiquement le narcotrafic ? En 2023, les douanes françaises ont intercepté près de 140 tonnes de stupéfiants, maintenant un niveau très élevé malgré une baisse de 17 tonnes par rapport au record de 2022. 2024 marque une nouvelle accélération spectaculaire. Les douanes françaises ont saisi près de 111 tonnes de produits stupéfiants, dont presque 21 tonnes de cocaïne, une hausse de 74% par rapport à 2023. En ajoutant l'ensemble des services de police, de gendarmerie et la marine, les autorités françaises ont saisi au total 53,5 tonnes de cocaïne en 2024, soit plus de deux fois plus qu'en 2023. Sur le plan économique, le narcotrafic représente une économie souterraine colossale et qui est difficile à mesurer avec précision. D'après l'INSEE, le marché des stupéfiants représente en 2020 un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros, soit 0,1% du produit intérieur brut, dont plus de la moitié proviendrait du trafic de cannabis et 38% de la cocaïne. Les estimations récentes sont cependant bien supérieures. Une commission d'enquête du Sénat de 2024 conclut que le chiffre d'affaires minimal est de 3,5 milliards d'euros par an, avec une fourchette haute de 6 milliards d'euros. Ces estimations correspondent à 5 millions de consommateurs réguliers de cannabis et 600 000 de cocaïne, les deux drogues illicites les plus consommées dans le pays. En termes d'emplois directs et indirects, les chiffres sont saisissants. 240 000 personnes vivraient directement ou indirectement de ces trafics, dont 21 000 à temps plein, avec environ 3 000 points de vente répartis sur l'ensemble du territoire.
Depuis Claude Lievenstein, il y a 50 ans, on sait comment traiter la question des consommateurs, les traiter comme des malades, comme le tabac et l'alcool. C'est le même problème. Ça n'est pas la même substance, hein, mais c'est le même problème. On sait comment faire et on ne veut pas le faire. C'est un peu comme la proxénétion et le proxénétisme. On tourne autour du pot entre les travailleurs sexuels, oui, mais non, mais peut-être, mais quand même. C'est un pays où on fait de la moraline et pas du droit, et en tout cas pas de l'efficacité. Donc ça ne marche pas, ça ne marche nulle part. La répression du consommateur ne fonctionne pas. Il faut réprimer les dealers, il faut réprimer les trafiquants, il faut réprimer les producteurs, il faut réprimer y compris les corrupteurs, puisqu'il y en a beaucoup dans le système. Je vais y arriver. Mais par contre, le consommateur se traite d'un point de vue médical, y compris par l'injonction thérapeutique. C'est pas simplement il faut aller voir le docteur, c'est vous devez aller voir le docteur et si vous n'y allez pas, alors il y a des sanctions. C'est un processus plus dur et ce qui nécessite d'être mis en place. Pardon.
La une du Parisien aujourd'hui. Dans la police, les enquêtes liées à la corruption et la consultation de fichiers illicites qui explosent plus 70% en 4 ans. C'est-à-dire des délinquants qui corrompent des policiers pour leur soutirer des informations. L'IGPN, la police des polices, a mis au point des techniques pour repérer si certains policiers consultent anormalement ces fichiers. Thomas de Ricolfis est le sous-directeur des enquêtes à l'IGPN. Il est au micro, c'est à vous, de Salomé Delattre et Zidane Azouzi.
Ce sont des petits algorithmes que nous faisons tourner sur les bases de connexion à nos différents fichiers et qui permettent de voir s'il y a des anomalies. Et après, une fois que nous avons ces anomalies, nous allons faire une levée de doute pour savoir si ça correspond à quelque chose qui est normal ou si quelque chose qui n'est pas normal et qui rentre éventuellement dans l'illégalité. On a des résultats assez encourageants parce que on a détecté, grâce à ces algorithmes, des gens que nous avons déjà en enquête ou que nous avons eu dans le passé en enquête.
Dans la police, on appelle ça la tricoche. En décembre, il y a une gardienne de la paix qui a été interpellée. Elle revendait des infos à un délinquant pour un gain de 12 000 euros en un an. Est-ce que c'est un phénomène qu'il faut surveiller de près ? Et qui est lié à ce développement généralisé du narcotrafic.
Oui, lors de la commission d'enquête sur le narcotrafic du Sénat, toutes les inspections sont venues indiquer qu'elles avaient les mêmes problèmes. Les douanes, l'inspection des services judiciaires, dans les greffes, la police, bref, tout le monde est venu dire « nous avons un sujet ». Et comme l'a montré votre programme tout à l'heure, le même sujet, c'est sur aussi la corruption des élus, notamment municipaux. On a déjà eu des cas, alors dans certains cas ça s'est terminé par un non-lieu, dans d'autres cas il y a des enquêtes en cours, mais il y a effectivement, le trafic de stup, ça salit tout, mécaniquement. Ceux qui luttent contre, ceux qui se vendent, ceux qui se laissent corrompre parce que, voilà, c'est 300 000 personnes la vie du trafic de stup en France.
Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, et surtout n'oubliez pas, partagez pour faire changer les choses.